On passe à toute l'info près de chez vous. Elle vous est présentée par Fabien Gazot. Bonjour.
Bonjour David, bonjour à tous. À propos de la grippe aviaire, les autorités sanitaires ordonnent l'abattage des volailles. Même scène autour des couvoirs et des élevages reproducteurs. Une mesure radicale qui passe évidemment très mal. La foire expo de Bressuire s'ouvre aujourd'hui pour 4 jours. 150 exposants sont présents sur Bocapol, qui sera animé en permanence sur le thème du Pays Basque. Les clauses sociales qui permettent de faire de l'insertion sur les marchés publics se révèlent efficaces. On fera le point avec le référent. En Nord de Sèvres, un forum autour du thème « Quel habitat pour demain ?» proposé par le CSC du Pays Moléonnais se tiendra le mardi 5 avril, la semaine prochaine, à Saint-Aubin-de-Bobigny. Enfin, on terminera par une note légère, enfin léger, c'est vite dit, puisque le bioparc de Douai-la-Fontaine a annoncé la naissance d'un rhinocéros. Un mot de politique pour commencer ce midi, puisque Philippe Robin, conseiller municipal bressuirais et vice-président de l'agglo de B en charge du tourisme, se lance dans la bataille des législatives. C'est officiel, investi par les Républicains. Il briguera le poste de député de la 3e circonscription de Sèvrienne, celle de Bressuire-Thouars. Les Républicains qui ont investi également Dominique Six dans la 1ère circonscription et Émilie Baudré dans la 2e aux élections législatives de juin 2022. Grippe aviaire, des éleveurs contraints de sacrifier des volailles saines. Les autorités sanitaires ont pris il y a quelques jours des arrêtés ordonnant l'abattage préventif de volailles, y compris donc de volailles saines, non porteuses de la grippe aviaire. Une mesure radicale pour protéger des sites sensibles tels que les couvoirs et les élevages de volailles reproductrices. C'est le cas notamment autour de Montcoutan où 15 éleveurs se sont vus notifier cette décision applicable sous 10 jours. Une décision difficilement acceptable pour Emmanuel Mercier, seront installés à Moutier-sous-Chantemerle avec un élevage de 42 000 poules pondeuses bio et plein air.
On essaye de résister autant que possible pour pouvoir préserver nos exploitations. Aujourd'hui, alors que nos animaux sont sains, ils nous demandent l'abattage. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir tester nos animaux avant de tout abattre. On n'a jamais connu une telle crise et c'est clairement une pénurie qui se prépare pour les mois et l'année à venir. Aujourd'hui, il y a plus de la moitié de notre cheptel de poules pondeuses au sein de notre groupement de producteurs qui est abattu. Et on nous rajoute encore près de 400 000 poulettes et 400 000 poules pondeuses en plus. Voilà. Pour la filière pondeuse, il y a cette particularité que si aujourd'hui on laisse nos animaux partir, le jour où les autorités sanitaires décideront de remettre en place dans les bâtiments, nous, nos poussinières qui nous préparent nos futures poules pondeuses sont vides et il faudra 4 mois et demi à 5 mois pour faire une poulette et tout le monde ne pourra pas être chargé du premier coup et donc pour certains d'entre nous, on va être vide pendant presque un an et demi. Avec la menace du virus qui plane déjà au-dessus de nos têtes pour l'année prochaine. Donc c'est très compliqué. Voilà.
D'autant que la question des indemnisations reste en suspens. Seront-elles suffisamment élevées et rapides pour maintenir à flot les exploitations? La situation est rendue encore plus complexe par le silence des autorités et des services vétérinaires qui communiquent très peu, alors que la gestion de la grippe aviaire est traumatisante pour les éleveurs qui n'ont pas fait ce métier pour être contraints d'abattre prématurément des volailles saines.
On n'a pas été averti directement par les services vétérinaires. Il y a des arrêtés qui sont arrivés en mairie. En l'occurrence, pour moi et ma voisine, on a pris ça par des tiers. Donc, bon, on peut remettre aussi un petit peu en cause la forme, hein, parce que c'est quand même violent d'apprendre ça comme ça. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, les animaux vont pas être abattus dans les délais, ça c'est sûr, parce que l'outil d'abattage ne le permet même pas, parce qu'aujourd'hui, c'est très réglementé de sortir des animaux d'une zone sensible, et puis il faut que les abattoirs aient l'agrément aussi, selon les catégories de volailles qu'on a. Donc, le rythme d'abattage risque d'être long. Très long même. On espère beaucoup là, les différents échanges qui auront lieu la semaine prochaine. Très clairement, les derniers échos que j'ai eus sont peu engageants pour nous. Il est clair que tout ce qui est dans les zones de reproduction, aujourd'hui, il y a une volonté de la DGL là, qui mène toutes ces opérations là, de dépeuplement, ont l'air pour l'instant d'être strict sur leur position. Quoi.
Voilà. Emmanuel Merceron, éleveur de poules pondeuses à Moutier-sous-Chantemerle, dans un périmètre concerné par des abattages préventifs, sont également concernés par cette mesure. 14 élevages autour de Montcoutan, 20 élevages autour du Pin, 6 6 exploitations autour de la Forêt-sur-Sèvre, 3 autour de la Boissière en Gâtine et 1 élevage à Missé. L'ouverture de la 72e Foire Expo de Bressuire aujourd'hui, après 2 années blanches, BBA a dû de nouveau s'adapter en urgence puisque cette édition, qui devait être consacrée à l'Ukraine, a dû rabattre ses cartes. L'invasion russe a tout chamboulé. En seulement 3 jours, Bressuire Bocage Animation a réussi à mettre sur pied une édition qui se décline pour 4 jours sur les couleurs du Pays Basque. Jacques Rambaud, le président de BBA, au micro de Patrice Bémanangy.
C'est un grand plaisir, le Pays Basque. C'est que beaucoup de gens connaissent le Pays Basque, bien sûr. Le Pays Basque, c'est une histoire. Il y a ses contes, il y a ses légendes, et puis il y a la gastronomie, ça chante, il y a la convivialité. Et la foire de Bressuire, je m'efforce à le dire tout le temps, tous les ans, c'est pas une foire business. La foire business, c'est de prendre tout ce qui vient, et puis on cale et pour faire du chiffre. C'est pas ça. Nous, on veut une foire de qualité, et la foire de qualité, ça se fait qu'avec des gens de qualité. Donc l'animation, il faut qu'elle soit de qualité et il faut que nos exposants soient de qualité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand tous les exposants qu'on a là, on les sélectionne, enfin façon de dire, entre guillemets, sélection, mais on privilégie les locaux et après les régionaux. Et après, s'il faut agrandir, on agrandit. Mais autrement, on ne veut pas que ce soit la foire fourre-tout. Et puis, parce qu'une foire fourre-tout, on sait où ça mène. Vous en faites une, vous en faites deux, vous en faites trois, et après, c'est foutu. Donc le Pays Basque, on savait que c'était une région où il fait bon vivre, il y a de la qualité, de la convivialité, c'est pour ça qu'on a choisi le Pays Basque.
Au-delà des animations permanentes et des soirées de gala, la Foire Expo, c'est aussi un volet commercial avec 150 exposants dans des domaines très variés. Certains y seront présents pour la première fois, à l'image du bressuirais Sébastien Guédon, de l'enseigne Raison Homme, un agenceur d'intérieur.
J'ai lancé mon activité en fait fin d'année 2019. Donc après, avec la période Covid, en fait, toutes les manifestations événementielles ont été annulées. Donc j'avais déjà la volonté en 2020 de participer en fait à la foire exposition. Et de ce fait, cette année, c'est l'occasion de pouvoir recommencer.
Une belle vitrine.
Oui, tout à fait. Avec le nombre de visiteurs attendus, ça permet justement d'avoir une belle vitrine et une belle fréquentation pour pouvoir se faire connaître au plus grand nombre.
Alors qu'est-ce que vous proposez justement ?
Alors je fais tout ce qui est aménagement d'intérieur. Donc la cuisine, meubles télé, bibliothèque, dressing, chambre, placard, bureau, tout ce qui est pour le neuf, la rénovation, les particuliers, les professionnels. Et je m'occupe du projet de A à Z, de la création jusqu'à la pose en passant par la vente des produits.
Quelles sont les tendances en ce moment ?
Alors il y a un peu, il y a différentes tendances. Il y a concernant les finitions, il y a tout ce qui est bois naturel, blanc, noir, avec des touches de décoration végétale. C'est quelque chose d'assez constant dans le temps. Ça rassure les gens en fait. Et il y a aussi le style campagne chic qui plaît bien, avec des portes moulurées, des éviers timbres, ce genre de choses, pour vraiment avoir de la personnalité.
Sébastien Guédon, présent donc pour la première fois à la Foire Expo de Bressuire, qui débute aujourd'hui jusqu'au 4 avril sur le thème du Pays Basque. L'Ukraine, qui devait être l'invité d'honneur, ne sera pas oubliée, avec déjà un clin d'œil sur les affiches, mais aussi dans l'enceinte de la foire, avec un stand de l'UNICEF qui permettra de collecter des dons. L'inauguration est prévue cet après-midi à 15h30. En Thouarsais, en Bocage et Loudunais, des emplois sont créés par les chantiers publics. On les appelle les clauses sociales. C'est tout simplement l'obligation pour les entreprises qui décrochent les chantiers publics d'employer un certain nombre de personnes éloignées de l'emploi. Chargé de la coordination en Thouarsais, en Bocage et en Loudunais, Frédéric Mangeant en détaille les applications sur le terrain pour l'année 2021, qui n'a finalement pas réellement été impactée par la crise sanitaire en ce qui concerne les clauses sociales. Frédéric Mangeant au micro colline de Dominique Hérault.
Nous sommes revenus dans un taux tout à fait normal, donc qui correspond à 35 000 heures d'insertion et qui correspond lui-même à 22 équivalents temps plein à peu près. Qu'on va les retrouver dans tous les corps de métier du bâtiment, du gros œuvre jusqu'à la peinture, revêtement de sol et ainsi de suite. Aussi un peu d'espace vert, bien entendu, et puis on essaie, nous, d'aller plus loin pour un public un peu plus large et proposer d'autres types de postes, avec de l'entretien de locaux, du secrétariat, de la comptabilité, un maximum de postes différents. Sur chacun des territoires, effectivement, on a eu des chantiers intéressants. Sur Thouars, le cinéma, bien sûr, la station T, la rue Porte de Paris, aujourd'hui, tout le monde le voit. Sur Bressuire, on a terminé le quartier de la gare avec l'école et puis le bâtiment de la maison de l'emploi, entre autres. Alors, deux exemples récents, on a Farzat Hamadi, qui est un jeune afghan qui ne parle parlait pas français du tout en juin lorsqu'on s'est rencontrés, qui a été mis dans une première entreprise où ça a très très bien marché en tant que peintre, puisqu'il était lui-même peintre et plaquiste en Iran, qu'il a été pris dans une première entreprise, qu'il l'a dit à une deuxième entreprise et une troisième, et aujourd'hui, donc il est toujours en emploi depuis juin, ça n'a pas arrêté, il est dans une entreprise Toircès depuis janvier, qui n'a pas l'intention d'arrêter d'ailleurs le contrat avec lui pour l'instant. Et puis un deuxième, Dylan Bosch, qui avait vraiment beaucoup de mal à s'insérer et qui a été pris dans deux entreprises, lui, pendant un an et demi, chacune leur tour, une sur Thouars, une sur Bressuire. Il a décidé de s'installer sur Bressuire et l'entreprise Bressuirez le garde, évidemment, pour l'instant, sur du très long terme. Que du positif, bien sûr, et puis d'autres exemples, on en a beaucoup, heureusement.
Ces actions d'insertion se poursuivent en suivant le cours des chantiers publics. Selon Frédéric Mangeant, 2022 devrait s'inscrire dans le prolongement de l'année précédente. En revanche, de gros nuages s'amoncellent pour 2023, puisque la hausse des tarifs de l'énergie et des matières premières pourrait freiner la vitesse de croisière des chantiers publics. On n'est pas obligé de terminer sa vie en EHPAD. Forte de ce postulat, la commission Bien vieillir du Centre socio-culturel du Pays Moléonais veut être force de proposition pour envisager des solutions alternatives à la maison de retraite. Depuis 2 ans, les bénévoles autour de la responsable du secteur adulte, famille et senior ont mené la réflexion et souhaitent associer les habitants du Moléonais à cette démarche. Un forum Bien vieillir, baptisé Quel toit pour demain, sera donc proposé mardi 5 avril à Saint-Aubin-de-Bobigny. Laurent Bosch, l'un des bénévoles de cette commission, au micro de Jacqueline Pinon.
Cette journée sera l'occasion de présenter et de donner aux gens l'envie de trouver de nouvelles solutions pour l'habitat et mieux vivre le vieillissement. Par exemple, habitat intergénérationnel, habitat partagé, colocation entre seniors, famille d'accueil également. Voilà, ce sont différentes possibilités d'alternatives à la maison de retraite. On sent quand même une ouverture d'esprit à ce sujet. Manifestement, les problèmes liés à certains EHPAD privés ces derniers temps ont éveillé quand même des volontés de faire autre chose et d'apporter d'autres solutions.
Vous avez un exemple dans les Monges ?
Un projet qui va bientôt être en cours de construction, d'un habitat intergénérationnel d'une dizaine de logements, et cet habitat sera partagé entre des couples, des familles d'actifs avec enfants et des personnes ou des familles de personnes plus âgées.
Alors il y a des alternatives, on l'a bien compris, faut-il encore qu'il y ait une volonté politique, vous le dites aussi.
Oui, je pense que ce genre de projet ne peut pas être mené sans avoir un soutien des municipalités.
Ont donc été invités les maires de Moléon, de Saint-Pierre-des-Échaubrognes, de Saint-Amand-sur-Sèvre, de la Petite-Boissière. La présidente du département est également espérée lors de ce forum dont le programme nous est précisé par Béatrice Liègre, responsable du secteur adulte, famille et seniors au CSC du pays moléonais.
Nous, on a souhaité vraiment pouvoir apporter des informations sur des nouvelles propositions qu'on peut imaginer pour un changement de vie. Nous, ce qu'on a vraiment voulu mettre en avant, c'est aussi, ça veut dire quoi de se mobiliser sur un projet comme celui-ci ? C'est aussi la notion de temps. C'est-à-dire qu'un projet, entre le moment où on l'imagine et qu'il sort de terre, ça peut mettre pas mal d'années, voire, oui, quand même, peut-être 8 à 9 ans pour certaines situations. Donc, le matin, ça va être des stands avec nos partenaires locaux sur le maintien à domicile, et l'après-midi, des interventions de personnes qui se sont justement mobilisées sur des projets d'habitat partagé collectif intergénérationnel.
Ce forum autour du thème « Quel toit pour demain ?» proposé par la commission Bien vieillir du CSC du Pays Moléonais se tient le mardi 5 avril de 10 à 17 heures à l'espace de La Roche à Saint-Aubin-de-Bobigny. Reportage de Jacqueline Pinon. À propos du CSC, je vous rappelle cette soirée proposée par les animateurs référents jeunesse ce 1er avril, 10 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. Une soirée ponctuée de théâtre, d'ateliers, de débats, de temps conviviaux pour inviter les jeunes à aller voter, en tout cas pour les inciter à réfléchir à cet acte citoyen. La médiathèque de Bressuire propose ce vendredi une soirée conviviale réunissant toutes les générations autour du plaisir du jeu de société avec l'association Déambule. Cet atelier sera couplé à un moment d'échange et de transmission autour du fil, tout ce qui concerne le tricot ou la broderie par exemple. Le musée des Tumulus de Bougon rouvre ses portes au grand public aujourd'hui. Architecture contemporaine nichée au cœur d'un écrin naturel, le musée, site du département des Deux-Sèvres, propose un voyage en préhistoire permettant d'illustrer les premiers pas de l'humanité. Il s'intéresse plus particulièrement au néolithique, période fondamentale de l'histoire de l'homme. Au bioparc, les équipes émues par la naissance du premier bébé rhinocéros. Seulement 4 rhinos noirs naissent au monde chaque année, et en 2022, c'est le bioparc parc de Douai-la-Fontaine qui célèbre l'heureux événement. Un bébé rhino, c'est 16 mois de gestation et 40 kilos à la naissance. Après plusieurs tentatives infructueuses et une mise bas malheureuse en 2018, le directeur François Guay est encore tout fébrile de ce cadeau offert au petit matin du 4 mars.
C'est la première fois pour nous, donc on est évidemment très émus et beaucoup de fébrilité. Je pense qu'on a tremblé plusieurs heures au moment de la mise bas et on reste en même temps avec beaucoup d'émotion, très attentif à la relation entre la mère et la fille, très attentionné à ce qui va se passer dans les prochains jours, très ému.
Alors le rhinocéros, la personnalité, c'est câlin, c'est agressif, c'est comment ?
Le rhino, il est très câlin avec ses soigneurs parce qu'il aime les caresses en effet. L'idée, c'est d'avoir une relation de confiance entre le soigneur et l'animal, sans le domestiquer bien évidemment, ou en tout cas sans le dresser. Le rhino noir, après, c'est un animal qui est très caractériel, à la différence du rhino blanc qui est également africain. C'est un animal solitaire qui est très nerveux, un peu comme un taureau, alors que le rhino blanc a plutôt le caractère d'une vache. Donc il faut quand même rester très très prudent quand on travaille avec cet animal qui pèse plus d'une tonne. Et il a cette particularité de charger quand il a peur.
La petite Kina s'habitue petit à petit à son univers au bioparc. Seulement quelques visiteurs ont pu la voir pour l'instant. Avec un peu de chance et pas mal de patience, en juillet dernier, c'était une petite lionne qui était née au bioparc. Enzuri est maintenant visible de tous. À 8 mois, le petit félin joue avec sa mère et émerveille les enfants comme les parents. Le bioparc qui propose plusieurs animations à partir de ce samedi 9 avril, une conférence et une exposition à découvrir ensuite. François Guay.
Une exposition pour mieux présenter la roche qui fait la spécificité du bioparc. C'est le seul parc troglodytique au monde, donc qui a été installé dans d'anciennes carrières, des carrières qui sont elles-mêmes connectées par des tunnels. Et donc l'idée, c'est de mettre à l'honneur cette roche avec une exposition qui sera installée de façon pérenne à partir du 9 avril. Et puis on a une conférence donc aussi le samedi 9 avril qui s'intitule « Comment sauver les espèces menacées » qui regroupe différents auteurs qui ont sorti cette année un livre évoquant la relation entre l'homme et l'animal, Laurence Paoli et Brice Lefaux qui est directeur d'un autre parc zoologique à Mulhouse. Et au cours de cette journée, on a également la présence des dessinateurs qui ont participé à notre bande dessinée du Bioparc, la première bande dessinée qui vient de sortir, qui expose les différents projets de conservation que nous menons à travers la planète pour sauver les espèces.
Comment sauver les espèces menacée, conférence ce samedi 9 avril de 15h30 à 17h au Bioparc de Douai-la-Fontaine avec la première BD du Bioparc à découvrir des animaux et des hommes. Elle raconte les 18 projets de conservation soutenus par le Bioparc. Un petit mot de football avant la météo. Sachez qu'en national, Cholet joue à Villefranche ce soir.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Après une matinée plutôt ensoleillée, les nuages gagnent du terrain cet après-midi et deviennent menaçants, laissant échapper quelques pluies et peut-être même quelques flocons dans une atmosphère considérablement rafraîchie. Pas plus de 6-7 degrés cet après-midi et un vent de nord glacial qui peut souffler jusqu'à 60 km/h. Demain, le thermomètre va descendre jusqu'à moins 1 degré le matin. Matinée plutôt ensoleillée, puis de nouveau des nuages menaçants et quelques pluies l'après-midi, avec toujours du vent qui repart de plus belle dans l'après-midi. Température maximale autour de 8 degrés samedi, dimanche jusqu'à moins 3 degrés le matin. Une journée plutôt ensoleillée, mais de nouveau glaciale avec un vent de nord-est. 6 degrés pour les températures maximales dimanche. Toute l'info près de chez vous revient désormais ce soir à 18h avec Patrice Bémanangy. Bon après-midi.
C'était la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité.